carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le musée de la vie romantique à Paris propose jusqu'au 16 janvier 2011 une sélection d'œuvres autour du romantisme russe présentée pour la première fois à Paris. 75 peintures, sculptures de la fin du XVIIIe siècle à la moitié du XIXe sont ainsi exposées. Les chefs-d'œuvre proviennent de la galerie Tretiakov, nom du grand musée moscovite créé en 1856. Exceptionnellement prêtées, ces œuvres témoignent de la naissance des arts en dehors de la sphère religieuse dans l'immense Russie. Après les guerres napoléoniennes, les tsars ont prôné une identité nationale qui s'est traduite en peinture, en sculpture, en musique. Emmanuel Ducamp, spécialiste de l'architecture et des arts décoratifs russes, et l'écrivain Dominique Fernandez de l'Académie française, qui a en égale passion l'Italie et la Russie, nous éclaire sur cette éclosion artistique qui a peu à voir avec ce que nous entendons habituellement par romantisme. Retrouvons Emmanuel Ducamp. Emmanuel Ducamp, comment pourriez-vous nous présenter d'abord le romantisme russe ? C'est un vaste mouvement artistique européen. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Le titre de l'exposition, justement, c'est « La Russie romantique ».
Je me demande si, en fait, ça n'est pas de toute façon un qualificatif qu'on pourrait attribuer à la Russie, que ce soit d'ailleurs au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, et pourquoi pas même au XXe siècle. Les œuvres qui sont dans l'exposition du Musée de la vie romantique sont remarquables à plus d'un titre. D'abord parce qu'elles proviennent du grand musée de peinture russe de Moscou, dont la création à la fin du XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, était déjà en elle-même un phénomène particulier. Les moscovites voulaient se distinguer des pétersbourgeois qu'ils considéraient être sous la coupe de l'Académie impériale des beaux-arts et donc d'une vision de l'art un peu passéiste, très traditionnelle. Et très tôt, dès les années 1850, des artistes se sont déclarés, je dirais, contre les principes de l'Académie impériale des beaux-arts. Vous avez sans doute entendu parler du mouvement des peintres qu'on appelle les peintres ambulants, qui voulaient justement, j'allais dire, porter l'art russe, j'allais dire, dans toutes les izbas. C'est une expression un peu rapide et imagée, mais on les appelle les ambulants parce qu'ils voulaient organiser des expositions de peinture russe jusque dans le fin fond de l'Empire russe, en considérant qu'il fallait qu'il y ait une espèce d'interaction entre, j'allais dire, l'objet et le sujet. Et alors que l'Académie impériale des beaux-arts, qui d'ailleurs existe encore telle qu'elle, non pas sous le nom d'Académie impériale, mais qui est encore une école d'art aujourd'hui, est une des rares écoles au début du XXIe siècle dont tous les cours soient des cours, des enseignements d'art figuratif. Vous voyez, ça a continué encore jusqu'à aujourd'hui. Déjà à l'époque, c'était le cas, les moscovites voulaient s'en distinguer. Et un collectionneur à Moscou, Pavel Tretiakov, a commencé à constituer dans les années 1870 une collection de peintures russes. C'est lui qui a refusé de vendre cette collection à l'empereur Alexandre III et il l'a léguée, ensemble avec la collection qu'avait fait son frère, il l'a léguée à la ville de Moscou. C'est pour ça que Moscou a aujourd'hui l'un des plus beaux musées de peinture russe.
Est-ce que ce musée, pour nous donner une équivalence en France, c'est l'équivalent du Louvre ?
Non, pas vraiment, parce que théoriquement, il n'y a que des œuvres de peinture russe.
Alors, de quel musée à peu près pourrait se rapprocher ce musée, si c'est possible ?
On pourrait dire que c'est, j'allais dire, un peu l'équivalent d'Orsay, parce qu'en effet, il concentre des œuvres de la peinture russe depuis la fin, en tout cas, mettons, le milieu du XVIIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Il est tout à fait exceptionnel à bien des égards. Son bâtiment est très intéressant, parce qu'il a été construit avec la participation d'un grand peintre russe de la fin du XIXe qui s'appelait Vaznetsov. Et la chance que nous avons et que le musée de la vie romantique a aujourd'hui, c'est que la directrice du musée et ses conservateurs ont accepté de décrocher des œuvres qui sont dans les salles principales du musée. Ce qui veut dire qu'on n'a pas envoyé à Paris des œuvres secondaires qui sont ordinairement conservées dans les réserves, mais qu'on a décroché des tableaux qui font partie, je dirais, du parcours assez homogène et très cohérent qui est montré de la peinture russe à la galerie Tretiakov.
Donc 75 œuvres sont aujourd'hui accrochées pour l'exposition La Russie romantique. Il y a à la fois des toiles, des gravures, des dessins, des aquarelles, quelques sculptures, donc une grande diversité. Alors qu'est-ce qui fait un petit peu l'unité ou sur quelle base se sont fondés justement les conservateurs dans cette sélection ?
Je crois qu'ils avaient à cœur de montrer justement toutes les facettes de l'art russe au début du 19e siècle, qui sont multiples et qui vont un peu dans toutes les directions, notamment les directions techniques que vous avez mentionnées. Il y a des choses qui sont assez remarquables et je pense qu'il faut mettre en avant, par exemple, qu'il y avait au 19e siècle une fantastique école d'aquarellistes russes qui faisait soit des portraits, soit des vues d'intérieur. Nous sommes assez peu riches en France de revues d'intérieur à l'aquarelle. Il n'y en a pratiquement pas. Nous n'en avons quasiment pas pour tous les palais royaux. En revanche, en Russie, c'était une tradition très vive. Et il y avait une classe d'aquarelle à l'Académie des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg. Et sont venus ici, de Moscou, des exemples fantastiques d'aquarelle, notamment les portraits faits par Brulov, qui est un des plus grands artistes russes du 19e siècle et qui sont d'une virtuosité inégalée. Il y a aussi des vues d'intérieur pleines de charme qui montrent soit des domaines de campagne russe, soit des intérieurs de villes. Ça permet, je dirais, de se plonger un peu justement dans la Russie du 19e siècle sous toutes ses facettes.
Ce genre de peinture d'intérieur, c'est un genre nouveau à cette époque ? Pour la Russie, dans les arts russes, c'est typique du romantisme russe ?
Assez, oui, assez. D'abord, la classe d'aquarelle de l'Académie des Arts était très active. L'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg fonctionnait un peu comme l'Académie ici en France. Elle avait été fondée en 1757 sous Élisabeth Ière en suivant justement les principes de l'Académie.
À la différence que l'Académie des Beaux-Arts n'a pas de section d'aquarelle.
En effet, mais les Russes aiment bien serrer les choses, les catégorier. Et donc, il y avait une classe de sculpture, d'aquarelle, de dessin, de peinture. Elles existent encore aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Et l'un des souverains qui a été, j'allais dire, instrumental, essentiel dans le développement de l'aquarelle russe, c'est Nicolas Ier, qui est le souverain romantique par excellence, ne serait-ce que parce qu'il règne entre 1825 et 1855. Et c'est lui qui encourage la création d'aquarelles de tous les palais russes, notamment à la suite du grand incendie du palais d'hiver de 1837. Donc l'empereur, j'allais dire, donnant l'impulsion, le reste suit.
Il était aussi de bon ton, ça faisait partie de la bonne éducation que de savoir faire de l'aquarelle.
Tout à fait, c'est un trait en effet ordinaire de l'éducation des jeunes filles, de savoir non seulement dessiner, mais aquareller. Et c'est aussi en Russie une chose à noter que les portraits à l'aquarelle sont extrêmement appréciés, beaucoup plus qu'ailleurs. Et vous avez plusieurs artistes qu'il faut mentionner parce que leur nom est essentiel dans l'histoire de l'art russe du 19e siècle, notamment Sokolov, dont certaines œuvres sont présentées ici dans l'exposition. Brulov, j'en ai déjà parlé. Vous aviez un autre aquarelliste qui s'appelait Howe. Ils étaient en fait deux frères. L'un faisait des intérieurs. L'autre faisait les portraits des propriétaires des intérieurs. Et ces portraits sont, je pense, toujours assez évocateurs des personnalités qu'ils représentent, qui sont souvent dans des poses romantiques, dans des vêtements très romantiques. Ils sont souvent, en tout cas pour ceux qui sont montrés dans l'exposition, représentés hors de Russie. Ils aimaient beaucoup aller en Italie, à Rome notamment. Il y avait de nombreux artistes russes qui ont fait de très longs séjours à Rome. Oui, vous avez un autre artiste, en effet, qui s'appelle Sylvestre Chedrin, qui est un des plus merveilleux paysagistes du 19e siècle russe, qui s'est, j'allais dire, pénétrer des paysages italiens, mais je trouve les a souvent représentés avec un esprit russe, une lumière qui est très particulière. On parle souvent de cette lumière argentée du Nord. Qu'est-ce que c'est exactement ? Moi, jusqu'au jour où j'étais allé en Union soviétique, parce que je suis allé en Union soviétique la première fois, je ne me représentais pas bien ce que ça voulait dire. Et en fait, quand vous êtes là, à Leningrad à l'époque, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en effet, la lumière est particulière. On l'appelle lumière argentée. En fait, c'est une lumière qui est claire, au sens de clarté, c'est-à-dire que vous voyez très loin avec énormément de précision. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas quelque chose qui vient s'intercaler entre vous et ce que vous regardez, cela fut-il très éloigné. Ça, c'est très particulier. Et dans ces paysages, c'est assez marquant. En effet, tous les détails sont très précis, jusque très loin dans les profondeurs.
C'est ce qui frappe l'œil quand on visite l'exposition. C'est justement à la fois sur les paysages aquarellés comme sur les toiles. On a cette profondeur, cette clarté du paysage et dans ces détails, quelque chose de transparent, une minute presque un peu surréaliste, oui. Pour qui ne connaît pas la lumière dont vous parlez, cette lumière du Nord. Vous parliez de cette clarté. Moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est ce souci de la perfection et du détail des œuvres présentées.
C'était quelque chose qui était très apprécié et très hautement récompensé, encore une fois, à l'Académie des Beaux-Arts. Il y avait un mécanisme assez particulier qui consistait à nommer quelqu'un académicien au vu d'une des œuvres les plus parfaites qu'il avait pu faire. Et donc, on sait que certains aquarellistes, en effet, après avoir présenté une aquarelle, ont été reçus comme académiciens dans l'Académie des Beaux-Arts. Éventuellement, ils pouvaient même y devenir professeurs.
Donc, l'excellence est un critère dans cette reconnaissance.
Tout à fait. Il ne faut pas que vous oubliez d'où venait en fait la Russie au XVIIIe siècle. Non pas que l'art n'y existait pas, mais l'art tel qu'on l'entendait, en tout cas à l'époque en France ou en Europe occidentale, était très embryonnaire. L'art du portrait commence au début du XVIIIe siècle, notamment après l'installation de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg et la création de cette nouvelle capitale. Et c'est seulement progressivement que les artistes russes, j'allais dire, à la fois se libèrent des canons qui leur était imposé jusqu'alors. Vous savez que, comme Dominique Fernandez le souligne dans son texte, la peinture jusqu'au XVIIe siècle est une peinture essentiellement religieuse, et la peinture religieuse russe doit être faite selon des canons très précis. Donc ça empêchait, j'allais dire, l'artiste de se libérer et d'avoir une initiative esthétique différente. Au XVIIIe siècle, les artistes russes commencent à regarder ce qui se fait à l'extérieur. Ensuite, Pierre le Grand d'abord, puis Élisabeth Ière ensuite, et enfin Catherine II font venir des artistes étrangers pour enseigner à l'Académie des Arts. On envoie les artistes russes, notamment à l'initiative du comte Chouvalov, Ivan Chouvalov, qui était un remarquable collectionneur, un des favoris de l'impératrice Élisabeth Ière, la fille de Pierre le Grand, à son initiative. Donc on envoie fréquemment des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, des élèves en Italie et en France, justement pour qu'ils se pénètrent de toutes ces influences et qu'ils reviennent en Russie avec une technique plus aboutie. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ayez justement distingué dans les œuvres présentées dans l'exposition un souci du détail et de la perfection. Ce que je trouve fantastique, c'est qu'il n'y a pas que ce souci du détail et de la perfection.
Alors, quel est justement l'apport de ces artistes et leur originalité ?
Il y a une chose qui me frappe beaucoup quand je vais à la fois à la Galerie Tretiakov ou au musée russe à Saint-Pétersbourg, ou bien quand je regarde les œuvres qui sont venues ici à Paris dans l'exposition, notamment les portraits, je suis toujours étonné par l'espèce de profondeur psychologique qu'il y a dans la représentation des visages. Et c'est quelque chose qui me frappe dès la fin du XVIIIe siècle avec des artistes comme Levitsky, mais aussi avec un artiste représenté ici dans l'exposition qui s'appelle Borowikowski, qui était donc actif à Saint-Pétersbourg à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et quand vous regardez ces visages, il y a, j'allais dire, quelque chose d'autre. Il y a une espèce de message qui passe entre la personne qui est portraiturée et vous qui regardez son portrait. Alors que si vous pensez à des portraits français, je ne veux pas dire qu'il n'y ait jamais de profondeur psychologique, mais ce qui m'étonne souvent chez les Russes, c'est le naturel qu'il y a dans les expressions. Ce sont des poses qui ne sont pas convenues, qui sont plus libres parfois, même des mises en page qui sont inhabituelles. Le portrait de l'impératrice Yelizaveta Alexeïevna, par exemple, qui est dans l'exposition, la femme de l'empereur Alexandre Ier, en fait, suit le modèle d'un autre portrait qui était celui de l'impératrice Catherine II par Vigilius Eriksen et qui est amusant parce que l'impératrice est représentée donc de profil ou de trois quarts. Et il y a un miroir à côté d'elle qui fait qu'on voit l'autre côté de son visage, comme si vous aviez deux portraits en un seul. C'est en dehors de ce genre d'artifice artistique, l'expression des portraits me frappe. Par exemple, le portrait de Koukolnik, l'écrivain qui a été peint par Brulov. Vous voyez cet artiste complètement romantique, dans une atmosphère assez sombre. Il y a juste une partie de son visage qui est éclairée et il vous regarde comme s'il vous... J'allais dire comme s'il vous faisait part d'un secret, comme s'il était en train de vous raconter ses passions les plus intimes. C'est quelque chose que je trouve en effet assez particulier dans l'art russe de cette époque.
Peut-être qu'on peut s'attarder aussi sur le portrait de Pouchkine. J'en parle parce que c'est aussi un portrait qui est devenu, j'allais dire, la représentation officielle de Pouchkine. Tous les Russes le connaissent par cette image-là, à travers, à l'origine, un tableau qui a été ensuite gravé à la demande de l'artiste, mais aussi du collectionneur. Enfin, vous allez nous raconter l'histoire un peu particulière de ce portrait. Vous parliez de pose naturelle, et là, on a aussi... dans ce cas-là, tout à l'heure, vous avez parlé de pose naturelle, et dans le dernier portrait que vous avez évoqué, le personnage très sombre. Mais là, on a une pose vraiment simple, j'allais dire, qui a quand même tous les caractères du personnage, de la figure romantique.
Oui, ce qui est intéressant, là, en effet, c'est que Pouchkine ne regarde pas le spectateur. Il a l'œil, le regard un peu perdu dans ses pensées, il croise les bras. En cela, sa pose est assez naturelle. Et vous faites bien de faire allusion à l'artiste qui a fait le portrait original, qui s'appelait Oreste Kiprensky. Il y a plusieurs dessins de Oreste Kiprensky dans l'exposition. C'était un artiste très couru, très romantique. De nombreuses œuvres de lui sont conservées, en dehors du portrait de Pouchkine d'ailleurs, soit à la galerie Tretiakov à Moscou, soit au musée russe à Saint-Pétersbourg. Et à chaque fois, justement, on retrouve chez eux, chez les portraiturés, une pose très naturelle et romantique. Le terme est un peu à la fois facile et galvaudé. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Si on voulait lui donner le sens justement de naturel et humain, ça me va très bien. S'il faut penser qu'en étant romantique, on laisse parler ses passions, ça me va très bien parce que c'est exactement ce qui correspond, je dirais, non seulement à l'art russe de cette époque, mais aussi à la nature russe tout court. On connaît, si on veut penser à Pouchkine, on connaît sa fin tragique dans un duel, tué par quelqu'un qu'il estimait avoir insulté sa femme. Il est sans doute sorti grandi pour la postérité de cette mort tragique. Il ne faut pas oublier non plus que c'est quand même l'homme qui a réussi, comme le souligne encore une fois Dominique Fernandez, qui a réussi à, j'allais dire, faire sortir la langue russe de la gangue traditionnelle dans laquelle elle reposait encore et qui en a fait une langue moderne, qui a inventé des mots qui n'existaient pas pour définir des sentiments, des émotions que jusqu'alors on avait du mal à retranscrire dans la langue. C'est en cela que Pouchkine est un personnage essentiel pour l'histoire de la Russie au XIXe siècle. D'ailleurs, il est resté essentiel pas seulement pendant, je dirais, la période impériale, mais également pendant toute la période soviétique. Il ne faut pas oublier ce que les soviétiques ont apporté aussi à la culture russe. Même si l'exposition ne parle pas de l'Union soviétique, je trouve qu'il est intéressant de se remémorer ce que l'Union soviétique a fait pour la Russie en matière d'éducation. et notamment d'éducation classique, toujours en faisant appel à la langue de Pouchkine et à sa personnalité. Je ne pense pas que les auditeurs m'en veuillent de faire une petite digression, mais je trouve souvent que quand on parle de Russie, on en parle au passé, on devrait en parler, j'allais dire, au passé, au présent et au futur. Ne pas oublier que les musées russes et les musées soviétiques ont contribué à préserver un patrimoine essentiel, hérité en effet de l'époque impériale, mais qu'ils l'ont fait souvent dans des conditions difficiles, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'on peut leur rendre hommage à l'occasion d'une telle exposition.
On va laisser le portrait revenir sur le paysage et peut-être sur le rapport à la nature, si cher aux Russes justement.
Oui, il y a en effet dans l'exposition une série d'œuvres qui sont pour moi assez à la fois impressionnantes et émouvantes. Impressionnantes parce qu'elles représentent des paysages impressionnants. Vous avez un paysage du peintre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui a fait des œuvres tout à fait remarquables, qui s'appelait le prince Grigori Gagarin, qui était vice-président de l'Académie des Beaux-Arts, un des rares peintres aristocrates du XIXe siècle, qui a fait de nombreux décors pour le palais de la grande-duchesse Maria Nikolaevna, la fille de Nicolas Ier à Saint-Pétersbourg, et qui a fait une série justement de paysages du Caucase. Il ne faut pas oublier que sous le règne de Nicolas Ier puis d'Alexandre II, l'armée russe a en fait contribué à étendre le territoire de l'Empire vers l'Est et le Sud. On se rappellera les campagnes de la Russie contre Chamil, qui ont été évoquées avec romantisme par Alexandra Lapierre, par exemple. Et ces paysages qu'on voit donnent une image de la Russie un peu inattendue, un peu grandiose. Celui-là, en tout cas, qui est présenté dans l'exposition, est grandiose parce qu'il y a un défilé de montagnes et des Cosaques qui sont en train de traverser un fleuve. Il ne faut pas oublier aussi, je dirais, le caractère grandiose attaché à d'autres paysages russes, et notamment celui, par exemple, sur lequel est représenté l'homme de lettres Gogol, qui est un paysage d'Ivanov qui représente la traversée du Dniepr, et qui, pour moi, évoque déjà toute la grande école de paysagistes russes de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui va justement mettre l'accent sur le caractère essentiel du paysage. Qu'est-ce que ça veut dire, le caractère essentiel du paysage ? C'est qu'en fait, pour un russe, j'allais dire, la création tout entière se manifeste dans la nature. Et que quand il va se promener dans la forêt, ou quand il va se promener sur un chemin au milieu des champs, au fin fond de la Sibérie, il rend hommage à la création. Et ça n'est pas facile d'en parler, c'est quelque chose qu'on ressent soi-même devant des paysages. Quand vous regardez ce paysage d'Ivanov, vous avez une espèce d'impression d'immensité et puis de calme. Et vous avez l'homme qui vient, j'allais dire, peupler l'immensité et le calme. Et vous êtes vous-même, tout d'un seul coup, habité par une espèce de calme.
C'est la traversée du Dniepr. On dit que Gogol est représenté.
Oui, en effet.
Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ce tableau ?
Vous voyez en fait le Dniepr qui est un fleuve très large et j'allais dire très puissant. Il n'y a certainement, j'allais dire, pas un hasard si l'artiste Ivanov a choisi ce fleuve russe qui, comme la Volga, j'allais dire, est parfois évoqué comme un des grands fleuves de la Russie. Vous avez une espèce de paysage de collines qui viennent mourir sur les bords du fleuve. D'un côté, il y a une forêt. Et ce qui est très frappant, je trouve, bien que le fleuve soit, à mon avis, beaucoup plus tumultueux que ça, l'artiste l'a représenté comme si c'était un lac. Et vous avez la barque dans laquelle Gogol est assis. Et sur la surface de l'eau, il y a les reflets des trois personnes qui sont présents dans cette barque. Donc rien que ça vous installe, je dirais, dans une atmosphère paisible. Je ne suis pas certain, comme je le disais, que le Dniepr ressemble à ça. Ça n'est pas très important parce qu'en fait, même si le paysage a des côtés réalistes, Ce qui est important, c'est l'esprit dans lequel le paysage est fait, c'est la vision de l'artiste. Ce qui est important dans une œuvre, c'est en effet le regard porté par l'artiste sur un paysage, ou autre chose d'ailleurs, quelque sujet que ce soit, mais c'est sa vision intérieure qui doit passer par l'œuvre. Là, c'est ce qui se passe.
Et c'est à un moment précis de la journée, je veux dire, on est soit dans les clairs de lune, là c'est un soleil couchant. Ça fait partie des traits généraux de cette peinture, on va dire, de la Russie romantique.
Oui, parce que la lumière joue toujours un rôle essentiel, en effet, dans ces représentations. Chédrine est connu, par exemple, pour avoir représenté des paysages napolitains à plusieurs moments de la journée, les mêmes, exactement, avec les mêmes détails, les mêmes personnages, mais éclairés par des lumières différentes. Là, c'est une lumière du couchant, le soleil est en train de descendre à l'horizon et il y a un reflet, justement, orangé qui traverse l'eau du Dniepr, qui est, je pense, également une fois encore un peu esthétique, plus que réaliste, mais qui contribue justement à asseoir cette espèce d'atmosphère qui est à la fois chaleureuse au sens où les couleurs sont plus chaudes à cause des rayons orangés du soleil, mais aussi parce que ça évoque en effet la fin d'une journée, éventuellement de travail, de marche. Quand vous regardez les autres paysages qu'il y a ici dans l'exposition, la lumière est toujours un élément constitutif. Vous avez un admirable paysage de Vorobyov, par exemple, qui représente un paysage nocturne. Et là, tout est baigné dans une espèce de lumière un peu magique, transfigurée. Ce sont les bords de la Neva qui sont représentés. Il y a une intensité dramatique évidente. L'artiste, qui était lui-même, je pense, membre de l'Académie des Arts, a choisi en fait le seuil de l'Académie des Arts, qui est installé sur le quai de la Neva à Saint-Pétersbourg. Et devant l'Académie, il y a un embarcadère, qu'on appelle l'embarcadère de l'Académie, qui est bordé par deux énormes sphinx, qui ont été donnés, dans mon souvenir, par le Khédive d'Égypte à l'empereur et qui ont été installés comme ça devant l'Académie. Alors vous avez ces espèces de figures exotiques, entre guillemets, qui se détachent comme ça, l'une à gauche très précisément sur la lumière du couchant, l'autre comme peinte, j'allais dire, par reflet qu'on aperçoit sur la droite. Rien que ça, et les personnages qui aussi sont à peine visibles sur le quai de l'Académie, qui sont juste éclairés par des petits rehauts de blanc, vous imaginez en effet la nuit qui commence à s'installer. Alors là, c'est la nuit, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à Pétersbourg, il y a des saisons où il n'y a pas du tout de nuit. Ça aussi, ça compte beaucoup dans la vision des artistes. Il y a un autre paysage de Vorobyov qui est cette fois-ci une aquarelle et qui représente la Neva, un peu plus loin d'ailleurs que l'Académie, devant l'Institut des Mines. Et là aussi, vous avez une espèce de lumière fantasmagorique. Alors, elle n'est pas la même que celle du paysage précédent, parce qu'on est très certainement pendant la période des Nuits Blanches. Vous savez que c'est un phénomène très particulier. Il ne fait quasiment pas nuit à Saint-Pétersbourg quand vous y allez à la fin du mois de juin. Il fait jour, en tout cas, plein jour, au moins jusqu'à minuit, si ce n'est pas 1h du matin. Et ensuite, vous avez une espèce de douce obscurité qui commence à s'installer et qui dure jusqu'à 4h. Et après, le soleil se relève à nouveau. Les Russes, d'ailleurs, sont assez amusants parce qu'ils vous disent, quand vous leur demandez « Ah, mais je peux te téléphoner ce soir ?» Et vous leur dites « Mais à quelle heure ?»« Ah, tu peux me téléphoner assez tard ?» Et alors vous leur dites « 10h du soir ?» Mais ils disent « Non, jusqu'à 2h du matin. » Parce que comme il fait jour, ils n'ont pas du tout envie de dormir. Et ils disent qu'ils dorment plus pendant l'hiver. C'est un rythme qui est différent. Et là, la lumière, en effet, est différente. C'est un des autres traits, justement, qu'on peut, je dirais, caractériser dans les œuvres de cette exposition.
Pour conclure, peut-être, Emmanuel Ducamp, vous la jugeriez académique, cette peinture de la Russie romantique ?
Elle est académique si on la regarde d'un point de vue technique. parce qu'en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un goût du détail très évident, de la précision, des belles matières picturales. Quand vous regardez par exemple les gouaches de Fyodor Tolstoï, ce sont des œuvres académiques. Vous avez l'impression, quand vous regardez sa branche de groseille, qu'elle est là sous vos yeux. Mais est-ce qu'elle est académique seulement ? Pour moi, elle est beaucoup plus que ça. Elle est romantique parce que vous croyez avoir une branche de groseille sous les yeux. Et justement, sur la feuille, vous avez des gouttes d'eau qui perlent. Ça n'est pas académique, c'est romantique.
Merci, Emmanuel Ducamp. Retrouvons Dominique Fernandez de l'Académie française. Bonjour Dominique Fernandez.
Bonjour.
Le romantisme est un grand mouvement littéraire et artistique qui a touché l'Europe entière, globalement la première moitié du 19e. Les écrivains et les artistes en Russie étaient-ils eux aussi romantiques ? Se considéraient-ils comme tels ?
Enfin oui et non. La grande chose qu'il faut savoir, c'est que l'art en Russie a commencé à partir de Pierre le Grand, c'est-à-dire au début du 18e siècle et pratiquement au début du 19e. Donc pour nous, en Europe occidentale, le romantisme s'oppose à classicisme. Il n'y a pas de classicisme en Russie. Et Pushkin, qui est le premier grand poète, est à la fois romantique parce que des années 1820, mais hyper classique par sa forme. Donc c'est pas du tout le même sens. Parce que les deux cultures n'avaient pas du tout la même histoire. Il n'y avait pas de... Au XVIIe siècle, au XVIe siècle, il n'y avait rien en Russie. Il y avait des choses religieuses, des histoires de saints. Mais l'art, il n'y avait pas de tableaux non plus, il n'y avait que des icônes. Il était interdit de faire des tableaux. Tout l'art était religieux. Il n'y avait pas de sculpteur, parce que l'orthodoxie prohibe la sculpture comme trop profane, trop près du corps. Il n'y avait pas de musique dans les églises orthodoxes, il n'y avait rien. C'est Pierre le Grand qui a ouvert la Russie à l'Occident et à l'art. Il a fallu quand même un certain temps pour former les artistes. C'est pour ça que les peintres que nous avons dans cette exposition, qui sont des années 1820, c'est l'aurore de la peinture. Donc il ne faut pas les juger du tout comme des peintres français, comme on juge David ou Ingres, qui s'opposent ou continue à une longue tradition de peinture.
Alors, quels seraient, selon vous, donc, les traits généraux du romantisme russe ?
Mais c'est un éveil à la peinture. Il y a une espèce de candeur, de naïveté qui est tout à fait surprenante. Enfin, pour un œil occidental, c'est pas de la croix, c'est pas les romantiques français ou italiens.
C'est une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, voilà. Selon le fameux verbe de Racine.
Alors, vous avez, il y a certains peintres qui sont allés en Italie, comme Chédrine. Alors, vous avez des vues de Rome, très belles. Et d'autres, les plus intéressantes, ce qui se passe en Russie. Derrière le même Chédrine, par exemple, il y a un qui s'appelle La traversée du fleuve par Gogol. Ouais. On voit une barque sur un fleuve avec des buissons. Ça n'ensemble à rien de ce qu'on faisait en Europe. C'est une peinture complètement neuve, qui sort de rien. Il n'y avait rien avant. Il y avait que des icônes, c'est-à-dire des choses figées. Et tout d'un coup, on découvre le paysage, la lumière naturelle. C'est tout à fait...
Un art peut-être plus spontané ?
Oui, spontané. Je veux dire, candide, je dirais. Un art candide. C'est une espèce d'ouverture au monde. Les peintres, pour la première fois... Enfin, il y a des peintres, pour la première fois, qui... transportent leur toile devant un paysage, se mettent à peindre, mais sans héritage. Parce que vous voyez, les Ingres ou de la Croix, ils peignent toujours par rapport, ou pour s'opposer, ou pour au contraire rendre hommage, etc., par rapport à Poussin, par rapport à...
Aux règles établies de académiques.
Voilà, là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment le début, absolument.
On sent cette invention, c'est la période des inventions, on va dire, alors, pour les Russes, pour ces romantiques.
Il faut surtout pas juger, vous voyez, comme on... parce que j'ai des amis qui ont dit, c'est un peu pauvre comme peinture, mais non, c'est pas pauvre, c'est très riche, c'est un pays qui découvre la peinture. Il faudrait comparer avec le Moyen-Âge, enfin, vous voyez, pour eux, c'est pas du tout la même chose qu'en Europe.
Quelle relation, vous avez évoqué juste tout à l'heure le tableau dont le titre est Gogol au milieu du fleuve.
Oui, monsieur Ivanov.
Et voilà. Quelle relation les peintres et les écrivains russes de cette époque, justement, entretenaient-ils entre eux,
vu ce contexte? C'était portraituré, hein. Pushkin, Gogol, plus tard Tolstoï, Dostoïevski. Les grands peintres faisaient leurs portraits. Il y a un portrait de Gogol magnifique, là. Je ne sais pas de qui il est, là.
Est-ce que ces écrivains et ces artistes avaient des modèles artistiques, quand même? Vous avez évoqué l'Italie.
L'Italie, vous savez, il n'y avait pas d'art aussi. Il faut bien se rappeler, il n'y avait pas d'art jusqu'au XVIIIe siècle. Il y avait des arts religieux uniquement. Donc des modèles fixes, les icônes, on connaît bien, les chœurs a cappella. L'art au sens occidental, l'art privé, n'existait pas. C'était un art d'église, donc un art d'État, en quelque sorte. Alors les modèles, c'est l'Italie. Et il y a au musée Pushkin de Moscou, vous avez une salle extraordinaire avec toutes les plâtres de toutes les grandes statues italiennes. Il y a le David de Michel-Ange, il y a Donatello. Parce que à cette époque-là, les étudiants ne pouvaient pas faire le voyage d'Italie. C'était beaucoup trop loin, trop cher, etc. Donc les statues, c'est facile, on peut faire des moulages qui sont fidèles, en quelque sorte. Donc il y avait cette fascination d'Italie. En général, on les envoyait en Italie.
Et les artistes peintres présentés dans l'exposition, oui, sont allés
sont,
en
sont
Italie.
Allés en Italie. On fait des vues, il y a une vue de Naples extraordinaire, dans la pénombre, comme ça. Ils allaient en Italie, c'était comme l'Italie, le pays des arts.
Et le voyage en Italie aussi était considéré comme obligatoire, y compris par ces Russes.
Voilà, et les sculpteurs et les architectes. Et...
Alors, les tsars, au siècle précédent, faisaient venir...
Pierre le Grand
a fait venir des artistes italiens.
Ah bah, vous savez que ça, alors... Strasbourg était construit par des architectes italiens, français et allemands. Il n'y avait pas de Russes.
Comment ces artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet héritage latin entre leur voyage et ce
ils ont commencé par s'inspirer, copier, puis peu à peu, vers 1850, ils sont émancipés. Mais ça a été long, c'est très long évidemment.
Parmi les toiles et les gravures qui sont présentes dans l'exposition, quelles sont celles qui vous ont surpris?
Non, aucune. Moi, je les connaissais toutes.
Vous
parce
les
que
connaissiez
je fréquente
toutes
bien Garry Trudnikov. J'ai heureux de le revoir. Moi, je trouve la plus belle, c'est le d'Ivanov, où on voit cette barque. On dit que c'est au Gogol, on ne reconnaît pas du tout, mais une espèce de lumière d'aurore ou de crépuscule. Puis les portraits sont très beaux. Il y a des portraits de poètes romantiques aussi. Enfin, c'est une très belle exposition dans ce cadre merveilleux qu'est le musée de la vie romantique, le musée Ronan Scheffer, rue Chaptal. Et c'est un bonheur, cette exposition.
Merci, Dominique Fernandez. Merci à Emmanuel Ducamp et à Dominique Fernandez de l'Académie française. L'exposition « La Russie romantique à l'époque de Pushkin et Gogol », chef-d'œuvre de la Galerie nationale Tretiakov, dure jusqu'au 16 janvier au Musée de la vie romantique à Paris, 16 rue Chaptal dans le 9e arrondissement. Pour préparer ou poursuivre la visite de l'exposition, je rappelle la publication du catalogue aux éditions Paris Musée, où vous retrouverez la plume de nos deux intervenants de notre émission.